Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre programme de la semaine consacrée à la lutte contre les LGBT-phobies, à savoir donc les discriminations envers les personnes en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Johanna Renard. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes chercheuse et docteur en histoire et critique des arts et vous alternez donc entre les universités de Rennes et de Strasbourg notamment. L'université de Picardie-Jules Verne vous a invité à animer aujourd'hui une conférence sur Zoom, donc de 17h30 à 19h30, sur le thème « Féminité déviante, identité, érotisme et politique visuelle queer ». Cette conférence a lieu notamment dans le cadre de deux journées organisées hier et aujourd'hui autour de la lutte contre les LGBT-phobies à l'UPJV. J'aimerais, pour commencer, que vous nous détailliez un peu, si possible, le contenu de cette conférence. L'idée de départ donc de cette réflexion, c'est que parce qu'elles ne correspondent pas à la norme hétérosexuelle, les femmes lesbiennes ont dû réinventer et revendiquer d'autres identités, d'autres façons d'être femmes. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En décalage ou en contradiction, en déconstruction plutôt, d'une idée de la féminité qui serait homogène, qui serait unique, l'idée de l'éternel féminin selon Goethe. Les femmes lesbiennes ont réinventé d'autres féminités au pluriel en cherchant justement à explorer des féminités qui ne soient pas entièrement dirigées vers le désir masculin, le couple hétérosexuel. Et dès lors, elles ont inventé des féminités qui s'inspirent d'archétypes existants, mais qui sont souvent rebelles, qui sont en décalage et qui performent autrement en fait les marques du genre. Et donc c'est assez intéressant parce que ces féminités-là, qui sont en décalage avec la féminité telle qu'on l'entend habituellement, souvent définie en termes de douceur, de beauté, de grâce, mais aussi de soumission, et bien ces féminités-là, ces féminités queer, eh bien, elles sont rebelles, déviantes, elles vont à contre-courant.
Vous abordez justement le terme de queer qui apparaît aussi dans le titre de votre conférence. Être queer, c'est donc brouiller en fait les frontières du genre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, c'est assez intéressant parce que très tôt, il y a des théoriciennes qui ont commencé à réfléchir à ce que c'était que la féminité. Et donc, dès le début du XXe siècle, il y a une psychanalyste qui s'appelle Joanne Rivière qui a réfléchi à la féminité en fait comme un masque. Elle a émis l'hypothèse, à la lumière de ses recherches et de ses patientes, que en fait la féminité n'existait pas, en fait il n'y avait pas de féminité essentielle, biologique, définie par des traits et des caractéristiques biologiques, mais que la féminité en fait serait un masque que les individus assignés femmes porteraient en fait pour correspondre aux attentes de la société hétéropatriarcale. Et donc c'est un petit peu dans cette continuité-là que les pensées queer ont cherché à déconstruire les définitions binaires des genres féminins et masculins. Et donc notamment Judith Butler, qui est une grande philosophe américaine et qui a, en 1990, publié un ouvrage qui s'appelle « Troubles dans le genre », qui a été vraiment un coup de pied dans les conceptions traditionnelles du genre, binaire. Elle a déconstruit ça en montrant que justement, le genre c'était des attitudes, des comportements, des pratiques, que c'était une performance. Et qu'en fait, on pouvait performer autant le masculin que le féminin et performer aussi d'autres formes genrées, au-delà de ces binarités-là.
Vous parlez d'ailleurs de politique visuelle queer, on est dans du politique en fait, là.
Oui, c'est ça. Et donc moi, mon approche, elle s'intéresse surtout aux artistes. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début du XXe siècle, il y a notamment des photographes pionnières lesbiennes, américaines, donc comme Alice Austin, dont je vais parler dans la conférence, qui ont photographié leur pratique quotidienne avec leurs amis, également lesbiennes et d'autres personnes queer. Au quotidien, en fait, elles pratiquaient le travestissement, le drag, notamment en arborant un costume masculin ou en exagérant les traits de la féminité. Et elles ont documenté ces pratiques-là, qui sont autant d'explorations des attitudes, des comportements genrés, et qui montrent en fait comment les populations queer avaient vraiment au quotidien en fait pratiqué en fait des formes théâtrales en fait de théâtralisation du genre. Donc c'est très intéressant de voir comment les femmes lesbiennes dans le cercle plutôt intime ont pu explorer cela à une période où le costume masculin était interdit pour les femmes.
On était sur quelle période ?
Alors par exemple pour Alice Austin, c'est vraiment une photographe pionnière qui a produit toute une série de photographies à la fin du 19e siècle. Et jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, elle a notamment produit une série de photographies montrant elle et ses amis travestis dans les années 1890, par exemple.
Donc on était sur de la photographie. Est-ce que dans d'autres domaines artistiques, il y a eu justement cette exploration de la question du genre et des sexualités ?
Oui, alors je montrerai dans cette conférence, en fait, que cette exploration des genres et des normes de la féminité, elle s'est produite dans de nombreux arts, et notamment à la suite d'Oscar Wilde dans le domaine de l'opéra, mais aussi de la danse, ou notamment en danse, que ce soit des danses populaires comme le musical, ou dans des danses un peu plus artistiques, plus esthétisées, eh bien, il y a eu vraiment une exploration de féminité archétypale, d'archétypes de la féminité, comme par exemple la figure biblique de Salomé, qui est considérée comme vraiment la femme pécheresse, le contre-exemple de ce que devrait être la femme idéale dans la société hétéropatriarcale. Eh bien, justement, il y a de nombreuses danseuses qui se sont réappropriées cette figure pour en faire une figure de rébellion et aussi une figure de femme nouvelle, de femme indépendante qui revendique sa sexualité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces danseuses-là, c'était pour beaucoup des femmes lesbiennes. C'est par exemple Loie Fuller au début du XXe siècle, ou encore une autre danseuse un peu moins connue, Maud Allan. Et donc ces danseuses qui ont été des pionnières, elles aussi, de leur pratique artistique, ont cherché à se réinventer et non pas à reproduire des féminités classiques. Aussi. Et surtout parce qu'en tant que lesbiennes, elles avaient besoin de développer d'autres modèles.
Le titre de... Vas-y.
Et c'est aussi le cas dans le cinéma, notamment dans le cinéma des premiers temps, où on peut redécouvrir aussi des actrices, et notamment Alan Asimova, qui était, elle, actrice et réalisatrice, qui est une actrice d'origine russe, très connue du cinéma muet des premiers temps, et qui était lesbienne, et qui a réalisé un film mythique qui s'appelle Salomé en 1923. Et là encore, cette figure de pécheresse devient un modèle pour les femmes lesbiennes de cette période.
Donc on détourne un petit peu le personnage, en fait, pour en faire ce qu'on a envie.
Oui, c'est ça, et trouver d'autres modèles hors de la dichotomie habituelle entre la prostituée et la vierge, la madone et la prostituée. Et donc c'est aussi une idée de trouver des figures féminines qui soient des figures de libération sexuelle aussi.
Vous parlez justement de la notion d'érotisme dans votre conférence. Est-ce que, donc, au travers de ces œuvres d'art-là, justement, ces artistes lesbiennes ont dû réinventer aussi leur érotisme, donc détaché de la norme hétérosexuelle, et essayer de le mettre en avant pour montrer qu'autre chose est possible ?
Oui, c'est ça, pour sortir en fait d'une féminité qui est entièrement dessinée, modelée pour un regard masculin. Elles ont créé donc d'autres manières d'interagir et de se représenter, et également Excusez-moi, je perds mes mots, mais également de performer. Et donc, dans ces érotiques-là, il y a beaucoup d'érotiques qui sont basées sur un duo, un couple assez mythique dans les cultures lesbiennes, qui est celui du couple Butch-Femme, donc qui est une réinterprétation, en fait, pas du tout une copie, mais vraiment une réinterprétation et une réappropriation des rôles dits masculins et dits féminins dans un couple lesbien. L'idée, c'est de créer de nouvelles érotiques en jouant ces rôles-là, en les transformant, en les adaptant. Et donc, ces rôles-là, on les trouve documentés dans de nombreuses pratiques artistiques, notamment à travers la photographie, mais c'est aussi des pratiques corporelles qu'on retrouve aussi dans le spectacle populaire, et notamment avec des figures très connues comme Colette et sa compagne Missy, par exemple, au début du XXe siècle. Et donc, ces modèles-là, ils ont traversé les temps. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on les retrouve notamment représentés dans les photographies de la photographe sud-africaine Zanele Muoli, par exemple. Et puis, c'est des rôles qui sont politiques aussi, c'est des identités, des rôles qui sont politiques, parce que ça permet, en fait, de déconstruire les rôles de genre et de revendiquer une autonomie, en fait. Des femmes lesbiennes face au système hétéro-patriarcal.
Donc vous parlez de toutes ces figures, justement, Salomé, Colette et bien d'autres. On assiste en fait à la création d'une culture lesbienne aussi.
Oui, et ce qui est très intéressant, oui, une culture lesbienne qui a été ensevelie, qui a été oubliée, qui est sans cesse redécouverte. Ce qui est très intéressant, c'est que lors de ma conférence, je ne vais pas simplement parler d'artistes du début du XXe siècle, je vais parler aussi d'artistes qui ont redécouvert justement cette histoire-là, ces histoires queer, et qui cherchent à en faire comme une archéologie dans leur propre pratique. Par exemple, il y a un binôme d'artistes qui sont Renate Lorenz et Pauline Boudry, qui sont des artistes contemporaines, qui travaillent vraiment sur une archive des pratiques queer et qui, dans leur art, qui mêle à la fois la vidéo, la performance, l'installation, elles retracent en fait ces histoires-là. Elles partent à la recherche des histoires queer, des artistes dont les identités ont été soit dissimulées, censurées, oubliées, et elle s'intéresse beaucoup justement aux pratiques de drague. Et je parlerai aussi d'autres artistes plus contemporaines qui cherchent à réinventer ces histoires, à redécouvrir ces histoires queer et lesbiennes, et à les réinventer également.
Toujours dans cette idée de contrebalancer le fait que toutes ces figures ont été invisibilisées pendant longtemps par une culture prédominante hétéronormée et patriarcale.
Oui, c'est ça. Et puis également très stigmatisée, puisque par exemple, justement, ces formes d'expression du genre, qui sont les formes d'expression femme et butch, elles ont été extrêmement caricaturées, rejetées, jusqu'au point où aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est dans de nombreuses communautés queer, il y a une sorte de méfiance ou de rejet de ces identités-là, comme si en fait elles étaient trop stéréotypées, alors qu'en fait ça a été vraiment des outils d'émancipation à plusieurs périodes et encore aujourd'hui, notamment pour des lesbiennes et des personnes queer issues de milieux défavorisés ou populaires.
Vous parlez d'ailleurs de femmes déviantes aussi dans votre conférence.
Oui, alors déviantes par rapport à quoi ? Ben, déviantes par rapport aux attentes envers les femmes, mais également déviantes envers le contrôle des sexualités et des corps, et déviantes aussi parce qu'elles sortent d'un itinéraire imposé aux femmes, qui qui est totalement orienté vers le mariage et vers le couple et la reproduction. Le couple hétérosexuel et la reproduction. Elles sortent de ces de cet itinéraire-là pour prendre un pas de côté et voilà, vivre d'autres amours, d'autres désirs et affirmer d'autres formes de représentation.
Et vous, du coup, Johanna Renard, comment est-ce que vous êtes venue à vous intéresser à cette question-là, justement, à cette représentation d'autres féminités plurielles et d'autres genres, d'autres sexualités dans les arts ?
Alors, donc moi, je suis historienne de l'art, donc ça m'intéresse beaucoup de retracer l'histoire des pratiques queer, parce que les artistes queer sont souvent invisibilisés ou leur identité est censurée. Et donc c'est très important de retrouver ces histoires et ces regards. Sans cela, en fait, on a une histoire de l'art qui est très incomplète, entièrement dominée par des artistes masculins, blancs, hétérosexuels. Donc c'est une histoire de l'art qui serait totalement partielle et finalement trop homogène, alors qu'il y a toute une richesse, en fait, et des pratiques artistiques qui ont été minorisées, qui méritent d'être découvertes. Et c'est ce que j'essaye de faire à la fois dans des écrits, dans mes recherches et dans mes cours aussi auprès des étudiants et des étudiantes. Et par ailleurs, moi-même, je suis concernée parce que moi-même, je suis queer et donc c'est des problématiques qui me sont très personnelles aussi.
Ben, merci beaucoup, Johanna Renard.
Ben, merci à vous, merci de votre intérêt.
Je rappelle que donc ce soir, vous animez la conférence Féminité déviante, identité, érotisme et politique visuelle queer, donc de 17h30 à 19h30 sur Zoom. Cette conférence a lieu notamment dans le cadre de deux journées organisées hier et aujourd'hui autour de la lutte contre les LGBT-phobies et que vous pourrez donc retrouver tout le programme en ligne sur le site de l'UPJV ainsi que les liens de connexion Zoom. Je mettrai aussi le lien dans le podcast de cette émission. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, 12h et 18h, comme d'habitude. À demain.